Bonjour à tous, bienvenue, bon samedi, il est midi et demi.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
Des larmes, celles de Roger Federer, mais également celles de Rafael Nadal hier soir à Londres et de tout un stade. Le Suisse a mis fin à plus de 20 ans de carrière après un tout dernier match en double. Cédric Chasseur était sur place pour Europe 1. Il viendra nous raconter l'ambiance de ces derniers instants. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons consacrer une large place à l'actualité étrangère, en Italie notamment, où l'Union des droites est aux portes du pouvoir. Les Italiens votent demain lors de législatives anticipées. La coalition emmenée par Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi a pris l'avantage. Alors qu'au Brésil, qui de Lula ou de Bolsonaro sortira vainqueur dans une semaine? Nous serons avec Gaspar Estrada, il est directeur exécutif de l'OPALC, qui est l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. À la une également dans ce journal, les Occidentaux qui menacent de nouveau la Russie de sanctions après l'ouverture de référendums d'annexion de territoires ukrainiens. L'Ukraine, qui vous l'entendrez à la fin de ce journal, est à l'honneur de la technologie. Nos parades cet après-midi. La plus grande fête électro de France est de retour après 2 ans d'absence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une tendance météo, Valérie Darmon.
Temps très pluvieux, les naïcs du sud-est à la Corse, on le sait, je le dis depuis ce matin, et sur les côtes de la Manche, passage d'averses sur le reste du pays, des maximales qui ne dépassent pas 15 à 20 degrés, de la Bretagne aux régions du nord-est, c'est-à-dire Alsace et Lorraine, et jusqu'en Auvergne, 18 à 24 ailleurs.
Et météo complète juste avant 13h, à tout à l'heure.
Europe 1.
Ce que vous entendez, c'est l'adieu du public au maestro du tennis, Roger Federer, qui a mis très très tard hier soir un terme à sa carrière. Il termine d'ailleurs sur un revers, alors pas le coup, mais bien une défaite, en double, associé à son ami et rival Rafael Nadal. C'est bien simple, tout le monde était en pleurs, le Suisse, son adversaire. Bonjour Cédric Chasseur.
Bonjour.
Vous avez eu la chance d'assister à ce tout dernier match. Alors on le disait, hein, Federer a pleuré, Nadal a pleuré. Vous avez versé une petite larme vous aussi?
Ah, j'étais pas loin. Je pense que dans le public, les 20 000 spectateurs de l'O2 Arena étaient tous dans cet état, vraiment au bord des larmes. Certains n'ont pas pu verser quelques-unes parce que c'était un moment très fort, qui nous prenait vraiment à la gorge, aux tripes. C'était incroyable. À partir du moment où Roger Federer a posé sa raquette sur le bord du terrain, sur sa chaise, il a commencé à aller voir un ses coéquipiers, alors tombant dans les bras. Ça y est, c'était terminé. Sa carrière était désormais derrière lui, et c'est à ce moment-là où il a basculé ses fêtes. Pendant tout le match, il est resté très professionnel, très sobre, à son image finalement, avec quelques points à un moment donné où il s'est mis à serrer le poing justement. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est passé dans l'après-match, d'ailleurs il l'a avoué en conférence de presse, c'est le moment qu'il redoutait le plus de cette partie de journée qui a été très très longue, puisqu'Andy Murray a fait prolonger un peu le plaisir pendant de longues heures lors du premier match de la session de nuit. C'est vrai que Roger Federer n'a pas pu retenir ses larmes. D'ailleurs, je pense que on peut peut-être l'écouter très rapidement.
Oui, bien sûr.
Tout le monde est là, les garçons, les filles, ma femme qui m'a tant supporté. Elle aurait pu me demander d'arrêter il y a longtemps, mais elle m'a dit de continuer. Elle m'a encouragé à jouer. C'est incroyable, vraiment merci.
C'est des vrais sanglots, hein, Cédric, c'est pas fort, oui. On est vraiment dans l'émotion pure.
Ah oui, c'est de l'émotion à l'état pur, et tout ce discours qui a donc duré 7 minutes à peu près a été entrecoupé de moments où Roger Federer n'a pas pu retenir ses larmes. C'était vraiment très intense comme émotion. Alors il l'a avoué, ce n'est pas la fin, il dit la vie continue, il dit c'est une bonne journée quand même. Mais au final, il y a de l'émotion, et vous avez parlé de ses coéquipiers, les Naïcs. C'est vrai que pour Rafael Nadal, c'était aussi un moment très douloureux. L'Espagnol n'a pas pu, lui non plus, retenir ses larmes. Il était, c'est l'image qui restera de cette soirée.
Extrêmement assis, très très ému. Ouais. On les voit tous les deux main dans la main, hein, sur une image qui va faire date dans l'histoire du tennis, hein, finalement.
On a vécu un moment de sport, un moment d'histoire du sport, et pas seulement d'histoire du tennis. Et Rafael Nadal l'a très bien dit, vous allez l'entendre, lors de la conférence de presse d'après-match au milieu de la nuit. Pour lui aussi, c'était un moment riche en émotions.
Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir fait partie de ce dernier match. C'est un moment incroyable de l'histoire de notre sport. Et en même temps, le départ de Roger entraîne avec lui une partie de ma vie également. C'était très touchant de voir sa famille, tous ces gens autour de lui. C'était un moment incroyable.
Voilà, Cédric Chasseur, beaucoup d'émotions. Vous avez fait des jaloux, hein, vous le savez, ça, à la rédaction.
On aurait
tous aimé être à votre place. Merci beaucoup, en tout cas, de nous faire vivre un peu les coulisses. Hein. Vous étiez la seule radio sur place, Europe 1, donc présent dans ces derniers instants de carrière de Roger Federer. Bon retour, Cédric. Merci à vous.
Europe Midi Weekend.
Léna Aigmonier.
Et à midi 34, on ouvre une grande page désormais consacrée à l'actualité internationale. Et tout d'abord, direction l'Italie, où les dés sont quasiment jetés à la veille des élections législatives. D'après les derniers sondages, c'est la coalition des droites emmenée par Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi qui devrait prendre le pouvoir. Écoutez ce reportage à Rome d'Antonino Gallofaro, qui est notre correspondant sur place.
Les leaders de droite sont certains de leur victoire. Ils se sont donc tous retrouvés à Rome pour clore ensemble leur campagne électorale. Comme un chauffeur de salle, c'est l'éternel Silvio Berlusconi qui a ouvert leur meeting.
L'Italie ne peut pas être gouvernée par la gauche.
Devant lui, une mer de drapeaux de Fratelli d'Italia, la formation de son allié Giorgia Meloni. La députée romaine est favorite pour devenir la première femme première ministre. Federica en est convaincue.
On voudrait un changement. J'aimerais une femme leader. Je crois en sa cohérence. Elle ne s'est jamais vendue. Elle n'a jamais fait de compromis. Elle n'a jamais participé à des gouvernements techniques. Et je crois que cette fois, les Italiens choisiront Fratelli d'Italia comme premier parti.
Même les militants de la Ligue de Matteo Salvini hésitent à voter pour elle. C'est le cas de Pierluigi.
Elle a toujours maintenu la même ligne, dans le bien comme dans le mal. Elle n'a jamais lâché. Peut-être qu'elle pourra nous aider, je l'espère.
Pierluigi devra se décider d'ici demain. Mais selon les derniers sondages, Giorgia Meloni, à elle seule, devrait recueillir un quart des votes des Italiens. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
Et nous serons demain évidemment au cœur de ce dispositif. Rappelons tout de même que les derniers sondages en Italie datent d'il y a déjà 2 semaines. Autre scrutin présidentiel, celui-ci que nous allons suivre, celui du Brésil, puisque dans 1 semaine, le pays pourrait bien radicalement changer avec ce face-à-face Lula-Bolsonaro. Il devait débattre ce soir, mais finalement, Lula a décliné l'invitation. Il sera en meeting à São Paulo. Bonjour Gaspar Estrada.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Vous êtes directeur exécutif de l'OPALC, c'est l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. D'abord, vous avez peut-être une dernière tendance à nous donner à 1 semaine du scrutin ?
Oui, les sondages sont plutôt favorables à l'ancien président Lula. L'hypothèse auparavant exclue d'une victoire dès le premier tour commence à faire surface et aujourd'hui, Lula est techniquement en mesure de remporter ce scrutin dès le premier tour, mais il faut encore attendre 1 semaine de campagne.
Une semaine de campagne, alors précisément, sur quel thème va-t-il terminer sa campagne, Lula ?
Je pense que la question du rassemblement face à l'extrême droite, c'est un sujet qui a pu essaimer durant toute cette campagne. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont aussi importants, l'économie, le social, et la perspective d'un retour du Brésil sur la scène internationale, alors qu'aujourd'hui, Brasilia est réellement exclu de ces organisations internationales.
Alors, il a aussi récupéré, il a la faveur, on parlait d'un vote au premier tour, là, effectivement, on ne peut pas le dire, évidemment, à 1 semaine. Il a quand même récupéré beaucoup de déçus de Bolsonaro. Je pense pareillement, par exemple, aux évangéliques qui avaient voté pour le président sortant, les grands patrons même qui s'en détournent. Comment est-ce qu'il les a rattrapés ?
Bon, je pense que tout d'abord, il y a le bilan très négatif de Bolsonaro, que ce soit la pandémie, la gestion de la pandémie, que ce soit les mauvais indicateurs économiques et le mauvais fonctionnement de la machine gouvernementale dans son ensemble. Je pense que également la question des évangéliques. Les évangéliques sont hostiles aux armements. Or, Bolsonaro a multiplié les licences pour que les personnes puissent porter et acheter des armes. Et donc, de ce point de vue-là, la campagne de Lula a mis l'accent sur cette question. Et aujourd'hui, certes, la plupart des évangéliques votent pour Bolsonaro, mais ils sont beaucoup moins qu'en 2018.
Alors, est-ce que Jair Bolsonaro, s'il perd, acceptera la défaite ou, façon Donald Trump, est-ce qu'il pourrait remettre en cause le scrutin ?
Tous les indicateurs montrent aujourd'hui que Bolsonaro souhaiterait remettre en question le scrutin s'il n'est pas élu. Il ne serait-ce qu'hier, Il a dit qu'il était convaincu qu'elle allait gagner au premier tour et que si cela n'était pas le cas, eh bien, il y aurait un problème du côté des autorités électorales. Il a critiqué à de maintes reprises le mode de scrutin, notamment l'organisation d'un vote électronique qui existe au Brésil depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Et donc, c'est pour cela que de nombreux pays, dont les États-Unis, ont fait savoir aux candidats qu'ils reconnaîtront le scrutin dès la publication des résultats par l'autorité électorale. Justement pour éviter que cette contestation de Bolsonaro puisse donc fonctionner.
Vous le disiez, on est dans la dernière ligne droite. Il y a un dernier débat, hein, me semble-t-il, qui est organisé le 29. Ils seront là tous les deux cette fois-ci ?
Absolument. C'est la campagne de Lula a confirmé hier le fait que l'ancien président du Brésil sera présent à ce débat à la TV Globo.
Eh bien, merci beaucoup. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci pour votre éclairage, Gaspard Estrada. On rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Europe Midi Weekend.
Léna Aigmonier.
L'actualité à l'étranger, c'est également l'Ukraine et les référendums d'annexion qui ont lieu en ce moment par la Russie. Ils ont débuté hier dans des régions contrôlées en partie par Moscou. Bonjour Nina Droff.
Oui, bonjour.
Tous les leaders du G7 condamnent ce qu'ils appellent des référendums fictifs dont ils ne tiendront pas compte.
Oui, tout à fait. En fait, l'objectif de ces référendums, c'est de formaliser les annexions du territoire réalisées par la Russie, des pseudo-référendums, donc selon le président Volodymyr Zelensky, on l'a dit, qui appelle tout le monde à les rejeter. Écoutez.
Le monde réagira avec la plus grande justesse aux pseudo-référendums. Ils seront condamnés sans équivoque, comme pour la mobilisation criminelle que les occupants tentent actuellement de mener en Crimée et dans d'autres parties de l'Ukraine qu'ils contrôlent pour l'instant.
Et les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Washington a promis des sanctions rapides et sévères à ces référendums qualifiés de simulacres et de prétextes fallacieux par le président Joe Biden. Les pays du G7 ont condamné ces scrutins sans valeur juridique ni légitimité. Même la Chine, pourtant proche de Moscou, a appelé à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. En Russie, il y a aussi des bureaux qui ont été ouverts pour les Ukrainiens déplacés. Et là-bas, des manifestations de soutien ont été organisées pour les référendums. Mais c'est une mobilisation qui contraste cependant avec l'exode massif des hommes russes pour échapper à la mobilisation militaire proclamée par le Kremlin.
Ces images que l'on voit effectivement sur nos écrans. Merci beaucoup Nina Droff. Direction l'Iran à présent, puisqu'au moins 35 personnes ont été tuées au cours de violentes manifestations. Depuis plusieurs jours dans le pays, les protestations se multiplient après la mort de Jina Mahsa Amini, cette jeune femme détenue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Une situation que vivent de nombreuses femmes en Iran. C'est le cas de Negar Lousavi qui est venue vivre en France il y a désormais 4 ans, précisément à cause de ce problème. Cet après-midi, elle sera dans une manifestation parisienne. On l'écoute.
Moi, j'ai été battue par la police iranienne il y a 22 ans à Mashhad, c'est une ville religieuse en Iran, parce que je n'ai pas porté la bonne hijab islamique. J'ai été battue et j'étais prisonnière aussi. Donc, je me souviens exactement qu'est-ce qu'ils font les polices iraniennes avec les femmes iraniennes. C'est pas que Mahsa Amini, c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais il y a plein de femmes iraniennes qui ont été tuées et on n'a jamais compris. C'est important, c'est super important pour moi. Je veux bien soutenir toutes les femmes iraniennes et toutes les femmes dans le monde qui vont sortir de cet esclavage sexuel.
Et propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe 1. Il y a deux manifestations qui sont organisées aujourd'hui à Paris. Une première à 15h, place d'Italie, organisée par des associations kurdes et ukrainiennes. Et puis une deuxième qui est un peu plus tard, 17h30, du côté de Châtelet, dans le premier arrondissement de Paris. Vous restez avec nous. Attention, si vous vivez dans le sud-est, des intempéries sont à craindre. On y vient dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Léna Aigmonier.
Et il est quasiment 1h15 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. D'importantes précipitations localement orageuses sont attendues aujourd'hui dans le sud-est. Valérie Dalmont nous le dira dans le détail avant 13h. Soyez donc prudents, d'autant qu'à chaque fois, la même appréhension se répand sur la Côte d'Azur qui a déjà été victime d'inondations meurtrières. Vous vous en souvenez, en 2015, puis il y a 2 ans dans les vallées de l'arrière-pays niçois. Désormais, il existe des campagnes de prévention et plusieurs communes s'appuient pour lutter contre ces crues dévastatrices. Une illustration, un exemple, ce midi à Mandelieu-la-Napoule, où un bassin de rétention aide à contenir les eaux. Écoutez ce reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Les tractopelles sont encore en action, mais ce bassin d'une capacité de 14 000 mètres cubes, grand comme un terrain de football, est opérationnel. Il a été creusé en contrebas d'un ruisseau qui, à chaque pluie diluvienne, se transforme en torrent. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule.
Alors l'objectif, c'est de ralentir l'inondation, de stocker l'eau pour lui permettre de s'écouler naturellement. Ce vallon, qui aujourd'hui est à sec et très calme, a été responsable de l'inondation de la quasi-totalité du centre-ville il y a 2 ans. Et avec cet ouvrage, on pourra affronter une crue centennale de manière sereine.
Depuis 1 an, la police municipale de Mandelieu est aussi équipée de 2 véhicules amphibies. Son directeur, Pierre Boutillon.
Ils peuvent à la fois rouler sur une route normale, sur un terrain accidenté, mais également naviguer comme un petit bateau. Ça nous permettrait d'accéder, en cas d'inondation importante, à n'importe quel secteur de la commune pour pouvoir transporter des gens, amener du matériel, des vivres.
Parallèlement, comme dans tout le département, la commune multiplie les campagnes de prévention informant les populations sur les bons gestes à adopter en cas d'inondation. Par exemple, ne pas chercher son véhicule en sous-sol. En 2015, 8 personnes étaient décédées à Mandelieu dans des parkings.
Le reportage signé Frédéric Michel pour Europe 1. Et face aux conséquences du dérèglement climatique, le gouvernement veut accélérer le développement des énergies renouvelables. Emmanuel Macron a inauguré avant-hier le premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire. Au même moment, le premier site de production d'hydrogène renouvelable offshore a aussi été présenté. C'est une première mondiale. Cet hydrogène vert pourrait permettre de produire un carburant propre, sans émission de CO2. Margot Faudéry.
À quai, une barge jaune en forme d'hexagone de 20 mètres de long sur 14 de large, à 6 mètres au-dessus du sol et au sommet, un électrolyseur pour transformer l'eau de mer en hydrogène grâce à l'électricité éolienne, explique le directeur général délégué de LIFE, Antoine Hamon.
C'est le gros conteneur jaune qui est en plein milieu et vous avez un conteneur qui va traiter l'électricité. Donc l'électricité qui vient de l'éolienne, il faut la traiter pour alimenter l'électrolyseur. Et de l'autre côté, vous avez le traitement de l'eau. Donc on va aspirer l'eau, la déminéraliser pour la mettre dans notre électrolyseur.
De l'eau et du vent, selon lui, cela permettra par exemple de produire du carburant propre pour les voitures.
Dans la molécule d'eau, on a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc en mettant simplement de l'électricité dans de l'eau, l'hydrogène porte l'énergie qui va ensuite faire avancer votre véhicule et recracher que de l'eau derrière votre véhicule.
Pour l'instant, la barge de 300 tonnes reste dans le port pour les derniers tests, mais dès le printemps, direction l'océan où elle sera connectée à une éolienne flottante. L'objectif, équiper des grands parcs éoliens offshore, comme celui inauguré le même jour à Saint-Nazaire.
C'est un pilote qui va nous permettre de déployer ça massivement pour pouvoir décarboner l'industrie, la mobilité et la chimie.
En attendant, cette barge peut produire 400 kg d'hydrogène chaque jour, de quoi alimenter 100 voitures à hydrogène.
Le reportage de Margot Faudéré à Saint-Nazaire pour Europe 1, on l'a bien compris, l'heure est donc aux économies d'énergie et la capitale n'y échappe pas. L'extinction des feux est avancée à l'hôtel de ville, à la pyramide du Louvre et depuis hier. Également pour ce qui concerne la tour Eiffel, elle s'éteint à minuit moins le quart au lieu d'une heure du matin. Pour les commerces alentours, évidemment une dame de fer dans le noir à cette heure-ci, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, Johan Tritz.
Posés sur une terrasse du 15e arrondissement de Paris, quelques amis prennent un verre avec vue sur la tour Eiffel, sans illumination.
C'est dommage, mais bon.
Peut-être 23h45, c'est un peu tôt. Fin...
Franchement, moi, ça ne me dérange pas spécialement, non.
Le plus connu des monuments parisiens fait tomber son habit de lumière 1h15 plus tôt. Et pour Thomas, responsable de ce bar parisien, cela va sans doute changer certaines habitudes.
Peut-être qu'on aura moins de clients, peut-être qu'ils sortiront tard. Ils vont s'habituer avec la tour Eiffel à peut-être venir plus tôt au restaurant et partir plus tôt.
Ce qui pourrait réduire le nombre de clients, une décision assumée par la mairie de Paris et son adjoint au climat Danler, qui cherche à faire une économie d'énergie de 10%, soit 10 millions d'euros en moins sur la facture.
Ça ne va pas gâcher le rayonnement de la ville et je pense que les Parisiens et les commerçants saisissent de mieux en mieux l'intérêt de ces mesures.
C'est le cas du responsable de bar, Thomas, compréhensif tout en proposant une solution.
Il faudrait peut-être genre le week-end l'éteindre aux heures habituelles, mais la semaine... Il y a moins de gens qui sortent, c'est pas forcément nécessaire de laisser les météos aussi tard.
Pour le moment, aucune date de retour à la normale n'a été annoncée.
Johan Tritz pour Europe 1. Dans le reste de l'actualité, face justement à l'explosion des factures d'énergie, les producteurs de fruits et légumes réclament une aide de l'État. L'interprofession demande que la filière bénéficie d'un bouclier tarifaire. Elisabeth Borne, elle, va se rendre en Algérie les 9 et 10 octobre prochains. D'une part, pour concrétiser le partenariat conclu entre les présidents des deux pays fin août. Et cela pourrait aussi être le moment d'avancer sur la possible augmentation justement des livraisons de gaz algérien vers la France. Le gouvernement gouvernement qui va par ailleurs réunir autour d'Emmanuel Macron les chefs de la majorité et les ministres concernés en tout début de semaine pour faire un point sur la réforme des retraites. L'objectif sera de calmer les désaccords qui sont nés au sein de la majorité avec en lien avec la manière dont la loi pourrait finalement entrer en vigueur. Il est 1h10 sur Europe 1. Merci d'être avec nous en cette mi-journée. Dans un instant, les rues de la capitale qui se préparent à un déluge de décibels. La technoparade fait son retour. À tout de suite.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
De retour sur Europe 1 pour la troisième et dernière partie d'Europe Midi Weekend et ses bonnes nouvelles pour les fans de musique électro. Après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire, la technoparade fait son grand retour avec un long parcours qui passe par Bastille, 6 kilomètres, l'un des plus longs depuis sa création en 98. Et parmi les chars qui vont s'élancer, il y en aura un qu'on suivra tout particulièrement, celui de la DJ ukrainienne Xenia. Reportage de Marie Jiquel.
Il est loin le temps où Xenia Oua jouait de l'accordéon dans sa province de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. Star dans son pays, très connue par le monde de la nuit, Xenia Oua a également monté son label de musique électronique à Kiev. Mais ça, c'était avant la guerre, la jeune femme a dû quitter l'Ukraine, vinyle sous le bras. Ces platines ont depuis fait vibrer la cour de l'Élysée pour la fête de la musique et fait danser le couple présidentiel.
On pourrait dire aussi la solidarité qui est la nôtre à l'égard de l'Ukraine.
Xenia Oua revient donc ce samedi en invité d'honneur sur le char de Technopole, celui des organisateurs. À ses côtés, le char de l'Institut du Monde Arabe et celui du français Die Avner.
Voilà, les 11 chars de la Technoparade s'élancent à 14h depuis la place d'Enfer Rochereau. Côté cinéma, le film Saint-Omer, déjà récompensé à la Mostra de Venise, sera le représentant français aux Oscars le 12 mars prochain. Le film raconte un fait divers, le procès d'une mère accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. On termine ce journal avec un retour au sport. Julian Alaphilippe qui est loin d'être dans une forme optimale pour les championnats du monde de cyclisme. Il sera la nuit prochaine sur la ligne de départ en Australie. Martin Lange, et ça va être compliqué de décrocher un troisième titre consécutif.
Oui, la saison 2022 de Julian Alaphilippe ne restera pas dans les annales, c'est le moins qu'on puisse dire. Seulement 2 petites victoires, une infection au Covid et surtout une ribambelle de chute. La dernière lors de la Vuelta il y a 3 semaines. L'équipe de France a eu peur, mais le double champion du monde défendra bien son maillot arc-en-ciel cette nuit, malgré cette préparation perturbée.
Je suis certainement pas à 100%, mais j'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course, et que ce soit pour l'équipe de France, mais aussi pour essayer de gagner avec les gars. Ça sera l'objectif et bien sûr que je serai content de contribuer à tout ça, quoi.
Un Julian Alaphilippe plus collectif que jamais, car l'équipe de France débarque en Australie armée. Christophe Laporte, vainqueur d'étape sur le Tour, Romain Bardet, mais aussi Benoît Cosnefroy ou encore Valentin Madouas. Autant de coureurs qui pourraient jouer leur carte à Wollongong. D'ailleurs, le sélectionneur Thomas Vauclair n'a pas voulu en dire plus sur sa stratégie, mais il lui faudra de l'imagination face à un plateau relevé avec notamment Wout van Aert ou encore le double vainqueur du Tour, Tadej Pogacar.
Martin Lange du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à voir le temps. Valérie Darmon, attention, hein, toujours beaucoup de pluie dans le sud-est.
Effectivement, les plus orageux se renforcent entre le Vaucluse et le Var, où il va tomber en très peu de temps 30 à 60 mm de pluie. Les orages qui balayent aussi les Alpes-Maritimes, pouvant déverser de fortes lames d'eau. Ce soir, c'est la Corse qui va subir cet épisode de fortes pluies et d'orages qui vont traverser l'île d'ouest en est, et c'est la nuit prochaine que ces orages vont s'évacuer vers l'Italie, mettant fin à ce bref mais parfois puissant épisode d'intempéries. Ailleurs, c'est gris et pluvieux quasi partout. Les plus défavorisés sont ceux qui habitent entre Lille et Paris et toutes les régions situées le long de la Manche. En Normandie, les cumuls de précipitations pourraient atteindre jusqu'à 60 mm en 24 heures et donc approcher les records quotidiens de pluie pour un mois de septembre. Un mot des maximales, très fraîches, en baisse, entre 17 à Lille ou encore Rouen et 24 à Nîmes, Perpignan et Montpellier.
Merci Valérie. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Elle reçoit Gaspard Proust. Aujourd'hui, signature d'Europe 1, vous le savez, chaque mercredi, nous on se retrouve à 13h pour les infos.
Europe Midi Weekend.
Midi 30, 13h, Lénaïque Monnier.